Nous sommes le mardi 5 décembre et je suis bien heureux de vous retrouver. On commence à l'émission en force avec deux invités qui est autour de la table. C'est un sujet dont j'avais bien hâte de parler parce que je sais que ça va toucher bien particulièrement les gens, les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent, qui, comme tout le monde, pendant le temps des fêtes, veulent profiter d'un moment de repos, probablement entre deux soupers de Noël ou deux repas de Noël pour écouter un bon film. L'offre en vidéo description, elle n'est pas encore optimale au Québec. Il y a des discussions auprès du CRTC pour qu'il y ait une plus grande offre à la télévision d'émissions disponibles en CRTC sur les heures de grande écoute. En attendant, c'est toujours possible d'avoir recours au service de BANQ pour obtenir des films qui sont disponibles avec cette fameuse vidéo description ou audio description. Pour en parler, on reçoit Mme Claude Chapdelaine du CRIM pour nous parler d'une nouvelle technologie qui va bonifier l'offre. Bonjour Mme Chapdelaine.
Bonjour.
Et également Hélène qui est avec nous de BANQ. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Premièrement, j'aimerais qu'on fasse un petit tour d'horizon de l'étendue des services disponibles à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec pour les personnes avec une déficience visuelle qui voudraient soit profiter des films ou encore des livres disponibles.
Mais pour les personnes avec une déficience visuelle, mais nous, on couvre les personnes avec une déficience perceptuelle maintenant. Mm-hmm. Donc, vraiment, toute personne qui a une difficulté à lire l'imprimé. Donc, ces personnes-là, on leur offre des documents, donc des livres sonores en format DAISY, mm-hmm. des livres en braille et maintenant des films avec vidéo description. Ces documents-là sont disponibles sur place. On a maintenant une section de services adaptés au rez-de-chaussée à BANQ depuis qu'on a fait le réaménagement. Oui. C'est une très belle section. Puis, on a aussi tout ce qui est disponible à distance parce qu'on couvre, on offre le service à toutes les personnes ayant une déficience perceptuelle au Québec. Donc, tous ces documents-là sont envoyés par la poste gratuitement à nos usagers.
Et c'est un service qui est très personnalisé, par exemple, pour un néophyte. Tu sais, moi, je peux penser, par exemple, à mes grands-parents qui n'ont pas nécessairement une déficience perceptuelle, mais qui peuvent avoir de la difficulté avec la manipulation de DVD ou de nouvelles technologies. Il y a aussi un service à la clientèle pour les accompagner dans comment ça fonctionne, en fait.
Oui, absolument. Puis, on offre le téléchargement pour les gens qui ont un peu plus de facilité, qui ont accès à Internet, à un ordinateur. C'est pas tout le monde. Mais on offre aussi, c'est ça, les CD en format DAISY. Et on a des techniciens qui répondent au téléphone directement à nos usagers, puis qui offrent un service vraiment extraordinaire.
Une chose que je ne savais pas, en fait, c'est en faisant la pré-entrevue avec vous, Hélène, que j'ai appris, mais BANQ, c'est situé à Montréal, mais ça a une vocation nationale. Donc, on peut en profiter, même si on est ailleurs au Québec, à Rimouski ou en Gaspésie. Ou...
Absolument. C'est la Bibliothèque nationale du Québec. C'est pour tous les Québécois. Donc, on a les formats adaptés pour tous les gens du Québec, mais on a aussi tous nos services à distance, donc les livres numériques, toutes sortes de choses sur le portail qui sont accessibles à tous les résidents du Québec.
Donc, quand on pense aux bibliothèques, on pense à prime abord souvent aux livres, mais effectivement, comme vous l'avez mentionné, il y a aussi une vidéothèque, là, un catalogue de films disponibles en vidéodescription. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi là, la vidéodescription, on peut le résumer comment?
C'est, on imagine qu'on écoute un film, qu'on se ferme les yeux, donc on a seulement le dialogue. Les gens ne pensent pas à une personne qui a une déficience visuelle, ils se disent « Oh non, c'est correct, ils peuvent entendre le dialogue », mais ce n'est pas tout un film. Y a beaucoup d'actions qui se passent sans dialogue, des bruits, tout ça. Donc la vidéodescription va aller entre le dialogue pour décrire ce qui se passe à l'écran. Le meilleur exemple que j'ai, c'est qu'on a des usagers qui ont profité du film Polytechnique qu'on offre maintenant en vidéodescription. Ils avaient tenté de l'écouter sans vidéodescription, de façon régulière, puis ils avaient abandonné après 25 minutes parce que ça ne parle pas dans ce film-là.
On comprend, c'est un film sans dialogue ou pratiquement. Là, je ne l'ai pas vu, là, mais en tout cas pas récemment. Là,
oui, mais... pour l'intrigue, pour ce qui se passe, il n'y a pas de dialogue.
Est-ce que vous l'offrez, Polytechnique?
Absolument, oui. Donc là, les gens ont pu en profiter pleinement, une personne avec une déficience visuelle, avec l'aide de la vidéodescription.
Parlez-moi de... On va venir à vous, Mme Chapdelaine, et cette nouvelle utilisation-là de l'intelligence artificielle pour bonifier cette fameuse offre dont on parle. Mais parlez-nous tout d'abord de l'évolution de l'offre adaptée en termes de films à BANQ. Ça ressemble à quoi depuis 5 ans, disons?
Oh mon Dieu! Depuis 5 ans, au SQLA, nous, on n'avait aucun film. Mm-hmm. Donc, ce qu'on offrait à BANQ, c'est ce qui est offert dans la section musique et films. Donc, il y a... On a une quantité incroyable de films, une collection extraordinaire, mais tout ce qui est disponible au niveau accessibilité de ces films-là, c'est ce qui est disponible sur le DVD qu'on achète au magasin. Uh-huh. Donc, habituellement, des sous-titres et quelquefois de la vidéodescription, quelquefois, habituellement en anglais, pour des films américains, par exemple.
Donc, parce que ce qu'on comprend, en fait, c'est qu'on est tributaire de la bonne volonté des producteurs qui... Bon, là, de plus en plus, il y a les sous-titres qui sont inclus c'est dans les DVD. Maintenant, oui, maintenant, ben, probablement avec la démographie vieillissante aussi, là, il y a de plus en plus de personnes qui lisent les sous-titres. Moi-même, je les active moi quand aussi. J'écoute les films, surtout en anglais pour des raisons pratiques. Mais la vidéo description, c'est comme pas entré dans les mœurs. Et à cause de ça, l'offre était limitée. Mais là, il y a un partenariat qui est entré en ligne de compte. On va utiliser l'intelligence artificielle. Je suis sûr que ça vous titille beaucoup puis vous avez hâte d'en savoir plus. On va faire une petite pause. Puis après ça, bien, Mme Claude Chapdelaine du CRIM, du Centre de recherche en informatique de Montréal, va pouvoir nous en dire plus. Le CRIM, c'est quoi la vocation du CRIM, Mme Chapdelaine?
Ben, c'est un centre de recherche appliquée. Mm-hmm. On œuvre dans différents domaines, la reconnaissance de la parole. D'ailleurs, on a travaillé très fort à faire du sous-titrage en direct mm-hmm. pour les personnes en déficience auditive. Depuis plusieurs années, on a entrepris des recherches pour assister à la création de vidéos description pour les personnes en déficience visuelle. En fait, ça s'est fait un peu en parallèle, ces deux projets-là.
Le sous-titrage et la VD?
Oui, mm-hmm. on travaillait déjà sur le sous-titrage et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des limites d'intégration à, mm-hmm. À l'accessibilité au niveau des médias.
Parce que c'est un peu la particularité du CRIM, c'est que vous voulez passer de la recherche à l'application concrète dans le marché, en fait.
En fait, on prend des résultats de recherche mm-hmm. et puis on va l'appliquer pour faire des solutions qui vont être utilisées vraiment par des entreprises ou par des utilisateurs, comme dans le cas des personnes en déficience visuelle. Le CRIM ne fait pas que de la technologie assistée, mm-hmm. mais ça, c'est des projets.
Par exemple, le sous-titrage, de ce qu'on peut comprendre, en fait, c'est que comment est-ce qu'on a mis l'intelligence artificielle à profit, c'est qu'on a fait une détection de sons qu'on a associé à des mots qui détectent automatiquement les mots qui sont prononcés.
Oui, c'est ça. Il y a des gens qui répètent ce qui est dit à la télévision et uh-huh. ces mots-là sont dans un contexte particulier là, et ces mots-là sont compris par une machine et qui va faire des phrases et la phrase va être intégrée au signal de vidéo pour faire le sous-titrage.
Donc, ben c'est pas parfait, mais reste que ça aide beaucoup de gens, le sous-titrage, et ça vous a donné l'idée d'utiliser ça pour l'appliquer maintenant à une autre clientèle, si on peut l'appeler ainsi, avec une déficience visuelle. Ça fait quand même déjà plusieurs années que vous travaillez sur ce projet-là avec BANQ. Mmh. Je vous pose la question aux deux, peut-être, c'est comment est-ce que cette collaboration-là a pris naissance?
Ben, au départ, on s'est rendu compte rapidement que, premièrement, la vidéo description s'est faite par des personnes. Et le temps pour faire la vidéo description demande beaucoup plus d'efforts mm-hmm. que le sous-titrage. Et on s'est dit que probablement que ce temps-là de production serait un gros frein à l'intégration de la vidéodescription dans les médias.
Parce que c'est un véritable travail de moine, les techniciens, ce qu'ils font pour la vidéodescription, là.
Tout à fait. Alors, on a dit, mais pourquoi pas regarder ce qu'on pourrait faire pour diminuer le temps de production à un temps qui serait à peu près similaire au temps du sous-titrage, puis mm-hmm. de l'assister avec de la technologie. Mm-hmm. Et c'est comme ça que le projet a démarré. On a fait différents types de détection automatique sur les images vidéo et sur le son. Donc, on détecte automatiquement quand il y a du dialogue, quand il n'y en a pas. Mm-hmm. On détecte les visages pour savoir qui sont les acteurs principaux. On va détecter aussi les scènes pour décrire dans quel endroit l'action se passe, principalement.
Comme par exemple, intérieur, extérieur, disons?
On va détecter des scènes particulières au film. Mm-hmm. Et là, le vidéodescripteur, quand il reçoit le découpage par scène, va nommer la scène. Donc, si ça se passe, par exemple, dans un café, il va dire ça se passe dans un café, ça se passe dans le bureau, ça se passe sur la rue, dans un parc.
Ah, ainsi de suite. Puis on comprend en fait que l'idée, c'est d'optimiser le temps disponible pour pouvoir augmenter l'offre, finalement, de films qui est rendu disponible le plus rapidement possible. Et les fruits de ce travail-là aujourd'hui, c'est qu'il y a 34 nouveaux films qui sont disponibles à BANQ. Hélène, comment est-ce qu'on a choisi ces 34 films-là parmi toute la vaste sélection disponible?
Mais nous, on s'est dit on voulait une offre principalement québécoise, aussi mm-hmm. quelques films français. On s'est dit si la collection reste ce qu'elle est, qui est maintenant 34 titres. Si on n'a pas l'opportunité de la faire grandir, il faut qu'elle reste pérenne. Mmh. Donc, il faut qu'elle soit toujours intéressante dans 2, 3, 4, 5 ans. Donc, on a voulu vraiment y aller avec des classique, on va dire, du film, du cinéma québécois, mais aussi de plusieurs genres différents pour pouvoir intéresser le plus de gens possible.
Là, vous nous avez emmené en studio une copie d'une des copies disponibles, en fait, du film Le Confessionnal avec Patrick Goyette. Puis on voit déjà que, bon, ben, il y a une inscription en braille qui a été ajoutée sur le dessus. Et chaque film en vidéodescription est disponible à hauteur de 10 copies, c'est ça?
C'est ça, oui. On a 33. Il y en a un seul qui... On a seulement réussi à trouver 3 copies du film. Mais je ne dirais pas lequel. Mais oui, la majorité, c'est 10 copies.
Pour que les gens se garochent de son sens. Et une fois qu'on l'ouvre, ben, en fait, on voit qu'il y a le DVD, mais il y a aussi 2 autres CD à l'intérieur. Un, vous m'avez expliqué là, avant qu'on ouvre les micros que c'était le logiciel, et l'autre, c'est la vidéodescription. Ça fonctionne comment?
Exactement. Donc, c'est pas le crime n'a pas seulement développé une vidéodescription, mais il faut aussi qu'il y ait un logiciel pour que l'ordinateur puisse faire la lecture, la vidéodescription avec le film.
Okay.
Donc, ils ont créé un logiciel qui est complètement accessible, qui est vraiment très, très bien fait. Donc, il faut que la personne télécharge ce logiciel sur son ordinateur. Okay. Et ils ont seulement besoin de le faire une fois.
C'est un peu comme Daisy pour les livres audio, disons?
On va dire, oui, exactement. Ou le logiciel de lecture de film qui est fourni avec la majorité des ordinateurs, par exemple, sauf que celui-là est accessible.
OK.
Ensuite, la personne télécharge la vidéodescription.
OK.
Puis ensuite, elle enlève le CD et peut écouter le film. Il faut qu'on ait autant de CD parce que malheureusement, on ne peut pas modifier le DVD du film.
Oui, c'est ce qu'on comprend.
On ne peut pas y toucher.
En fait.
Donc, on fait des ajouts autour de ça.
Mais en fait, c'est donc dire que le DVD original, on n'a pas nécessairement besoin de le lire.
Oui, on en a besoin. On termine, on le met, et là, quand l'ordinateur va faire la lecture du film, il va ajouter la vidéodescription dans le logiciel. Okay. Et là, on va tout avoir et ça va être merveilleux.
En fait, on voulait protéger les droits d'auteur.
Oui, c'était ma prochaine question.
Sur ce DVD-là. Donc, ce que le lecteur fait et doit faire, c'est que la vidéodescription, elle est préparée d'avance et le lecteur sait à quel moment la vidéodescription doit être insérée dans la trame, dans le visionnement du film pour qu'elle soit dite au bon moment. Le lecteur aussi a des particularités que les autres lecteurs de lecteurs vidéo n'ont pas. L'utilisateur peut avoir un synopsis qui lui est lu avant qu'il débute la lecture, le visionnement du film. Il y a aussi des fiches d'acteurs qui lui permettent d'avoir une description des acteurs principaux et d'entendre des sections de voix de l'acteur, donc
pour se créer une référence.
C'est ça, pour faire une discrimination des voix entre les acteurs pour l'aider à reconnaître.
Il y a comme une valeur ajoutée qu'il n'y a pas dans d'autres vidéodescriptions, c'est comme ça. À la télé, par exemple. Oui. Parce que ça permet de reculer. Si on a manqué une scène d'action, souvent, ce que les je parle par expérience, pour avoir déjà écouté la télé avec des personnes avec une déficience visuelle, ils vont s'en remettre à la personne à côté d'eux pour dire « qu'est-ce que je viens de manquer, là, parce que j'ai manqué un bout de la vidéodescription. » Mais là, c'est possible de reculer.
En fait, il y a d'autres fonctionnalités qui sont ce qu'on appelle le mode augmenté. Donc, ce qu'on a rajouté, c'est qu'il y a des moments où carrément... le lecteur sait que la personne va écouter, par exemple, le film en augmenté. Elle va avoir plus de vidéodescription. À ce moment-là, le lecteur arrête la lecture du DVD, rend la vidéo, dit la vidéodescription et repart automatiquement le film. Donc, déjà en partant, ça permet d'en mettre plus dans les scènes qui en ont de besoin. Et on a rajouté ce qu'on appelle les boutons de rappel. Donc, à tout moment, pendant l'écoute du film, la personne peut demander « Ah, mais je suis dans quelle scène? Je suis perdue. Qui est dans cette scène-là? » Et puis, j'ai pas bien entendu c'est quoi les actions, donc on peut retourner jusqu'à 2 minutes en arrière sur les actions qui ont été vidéodécrites.
Ça s'est passé comment, parce que c'est un travail de longue haleine, la conception de ce projet-là, est-ce qu'il y a eu une consultation auprès des principaux intéressés, en fait, pour connaître leur avis?
Ah oui, c'est une belle et longue histoire. En fait, on a commencé à faire une étude avec les gens de l'Université de Montréal. Eux, ils ont analysé la vidéodescription pour voir qu'est-ce qui était dit dans une vidéodescription. Nous, après ça, on a fait un travail de recherche sur qu'est-ce qu'on pouvait détecter automatiquement dans les films. Quand on a eu les premiers résultats, on a fait venir des groupes de personnes en déficience visuelle et on a fait des premiers tests utilisateurs avec ça. On a vu nos points forts, nos points faibles. Ensuite de ça, on a rentré dans une deuxième phase de production où on voulait optimiser les logiciels et entre autres le lecteur, la visionneuse. Mm-hmm. Après ça, on a décidé de faire un autre test, d'ailleurs, qui a été financé par l'OPHQ. Mm-hmm. Et à ce moment-là, on a fait une première collaboration avec le BANQ. À ce moment-là, on avait produit une centaine de titres qui a été mis disponible pendant plusieurs mois à travers le Québec. Et les gens ont pu faire les premiers tests de notre lecteur, mm-hmm. De notre vidéo description. Suite à ça, on a fait des constats de ce qui fonctionnait bien et tout ça. Puis on a amélioré la qualité du logiciel, la qualité de la vidéo description.
Avez-vous des exemples d'ajustements qui s'est fait en cours de route pour répondre aux demandes des personnes avec une déficience visuelle?
On avait des problèmes. En fait, dans le test, ce qu'on faisait, c'est que les gens pouvaient télécharger la vidéo description au lieu de l'insérer sur un DVD. Mm-hmm. Et on s'est aperçu dans certains endroits où la capacité Internet était moindre. Ça prenait un temps fou pour charger la vidéo description, même si c'était des tout petits fichiers. Et puis, on s'est aperçu que ça créait des fois de la désynchronisation. Donc, on a amélioré la synchronisation de notre vidéo description avec le lecteur.
Okay.
Et dans la phase du projet qu'on est présentement, la collection qui est disponible, ce qu'on a décidé de faire, c'est de le mettre sur DVD pour que la vidéo description soit téléchargée a priori.
Uh-huh.
Comme ça, il n'y aurait pas de problème de téléchargement et pas de problème de synchronisation.
Moi, je me demandais quand même, la première fois que j'ai entendu parler de ça, je trouvais ça merveilleux, mais j'avais quand même une crainte en me disant, est-ce que l'intelligence artificielle va prendre trop de place et c'est remplacer le côté indéchiffrable de l'émotion des acteurs que seul un humain peut vraiment aller chercher. T'sais, j'avais peur que l'intelligence artificielle décide quelle émotion l'acteur porterait à l'écran puis qu'elle le dise à notre place. Mais en fait, c'est pas ça. C'est juste des informations factuelles qu'elle va donner.
Pour l'instant, oui. Malgré, je pourrais vous dire que je pense pas vraiment qu'il y ait jamais une production qui peut se faire sans un humain, même si c'est assisté pour diminuer le temps.
Uh-huh.
Entre autres, on utilise une voix de synthèse pour faire la vidéo description, ouais, pour diminuer le temps. Ça aussi, c'est une autre approche. Mais il faut dire qu'il y a toujours un choix à faire. Quand on fait du sous-titrage, on va prendre la parole qui est parlée puis on va essayer de faire des phrases, mais ça reste quand même ce que la personne a dit.
Uh-huh.
Dans la vidéo description, il y a un gros jugement ou le gros bon sens rentre en jeu, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois décrire de tout ce qui se passe dans une image ou dans une suite d'images.
Il y a des choix.
Pour que la personne soit pas confuse, qu'elle comprenne ce qui se passe entre le dialogue d'avant et le dialogue suivant.
Mm-hmm.
Donc, l'expression du visage, des fois, une émotion est tellement subtile et des fois, on travaille et on est deux, trois, puis on va regarder la même scène plusieurs fois pour trouver exactement le mot juste qui va décrire cette expression-là.
Puis
les jeux d'acteurs sont fantastiques.
Oui, puis c'est ça. Puis des fois, ça dépend. Deux techniciens qui font la vidéo description ne feront peut-être pas la même lecture nécessairement de l'émotion sur le personnage. Puis en plus, l'autre contrainte, c'est que des fois, on a 4 secondes et demie pour placer une tonne d'informations. Puis ce que je trouve intéressant, en fait, c'est que le choix de la voix de synthèse, ben, ça permet de raccourcir les temps de production. Donc, d'un côté, c'est sûr qu'on perd une certaine chaleur dans la voix là, qu'un comédien apporte, mais d'un autre côté, est-ce qu'on préfère ça ou encore avoir le plus rapidement possible un film pour pouvoir après échanger avec ses pairs sur la sortie du nouveau film de Xavier Dolan ou peu importe?
Mommy, d'ailleurs, est dans les collections.
Oui. Ah, bon.
Je vous dirais qu'il y a deux réponses à ça. Pour moi, à travers le travail que j'ai fait avec les technologies assistées, je me suis aperçue que l'accessibilité, c'est pas juste de modifier un contenu pour qu'il soit bien entendu.
Mm-hmm.
C'est aussi que la personne puisse... L'accessibilité, c'est de partager la culture ou le document en même temps que les autres membres de sa famille ou de son entourage. Donc ça fait partie de l'accessibilité. Donc si, par exemple, d'avoir un film avec des voix humaines ou un livre audio avec des voix humaines, ça amène des traitements qui peuvent aller de plusieurs mois. À ce moment-là, ben tout le monde a lu le livre ou tout le monde a vu le film et toi, tu n'as pas encore vu.
C'est ça.
Alors ça,
il y a un décalage qui se produit.
Il y a un décalage qui se produit, oui.
En terminant, parce que le temps file, mais qu'est-ce qu'on entrevoit dans l'avenir de l'offre adaptée en termes de films en vidéo description?
Ben, je vais commencer pour BANQ. Nous, on va faire un bilan de la popularité de l'offre, du nombre de prêts qu'on a fait, puis on va prendre des décisions après pour décider si l'offre va grandir. Mais on veut aussi offrir ça, on veut que ça soit aussi une réalisation pour les usagers, pour qu'ils puissent se dire, ben oui, c'est possible, ça peut être accessible, on peut m'offrir ces choses-là, ça devrait être offert. Mm-hmm. Puis aussi auprès des producteurs, parce qu'idéalement, tout ça là, qui est offert en 3 DVD dans un boîtier, ça pourrait tout être sur le même DVD. Ça viendrait avec le film. Mm-hmm. Ça viendrait avec l'émission de télé qui joue à la télévision. Donc, qu'on fasse ces demandes-là auprès des producteurs pour qu'ils fassent vraiment les changements à la base.
C'est l'objectif connexe du projet d'allumer des petites lumières chez les producteurs.
C'est ça. Oui.
Ben merci beaucoup. On va mettre le lien de BANQ sur notre site Internet si jamais on veut profiter de ce service-là pendant le temps des fêtes ou plus tard. On rappelle aussi qu'il y a un service à la clientèle qui est offert pour aider, accompagner les gens dans l'utilisation de ces technologies. Merci Hélène Gauthier, bibliothécaire à BANQ. Merci à Claude Chapdelaine du CRIM, le Centre de recherche informatique. Centre de recherche en informatique de Montréal?
Centre de recherche informatique de Montréal.
Merci d'être venu nous éclaircir tout ça aujourd'hui. Nous, on s'en va à une petite intermède musicale, puis on sera de retour dans un instant à Aime la vie.